Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour Thomas.
Bonjour Myriam.
Vous avez créé Praxi Paysage, qui est donc votre agence de paysage et d'urbanisme. Vous allez nous en raconter un petit peu plus. Et vous êtes évidemment aussi avec une certaine, je dirais, auréole, puisque vous avez été lauréat en 2009-2010 des albums de du jeune paysage AJAP. Voilà, paysage, et vous allez nous en parler aussi un petit peu plus. Je vous reçois aujourd'hui parce que le paysage devient de plus en plus prégnant dans les concours d'urbanisme et d'architecture. Et je voulais juste savoir, vous allez nous raconter un peu votre parcours, mais je voulais savoir, est-ce que le fait d'être lauréat AJAP, c'est, je dirais, un tremplin ou juste honorifique ?
Ben, pour moi, je pense que c'est les deux. Moi, les AJAP, j'ai eu des préoccupations que j'ai exposées à ce moment-là, qui étaient par exemple la question de la description, comment on commence un projet, la métamorphose, comment on fait évoluer les choses à partir de cette description, et la question du temps, qui est au fond la question de la fabrication et de la stratégie. Donc j'ai été très content que le jury soit intéressé par ces propositions. Et après, aujourd'hui, j'ai la chance de trouver des clients et des maîtres d'ouvrage et des partenaires qui sont intéressés par ces préoccupations, et donc je peux mettre en œuvre dans des projets à différentes échelles. On travaille de l'échelle de 1000 hectares, d'échelle d'études de forêt, jusqu'au jardin de cœur d'îlot, en passant par la transformation de quartier à Montpellier, à Pont-de-Claix.
D'accord, donc vous travaillez dans la France entière. Hein.
Je travaille dans la France entière et un peu à l'étranger.
À l'étranger, ouais. Bon. Ou à l'étranger, donnez-nous un petit peu quelques pistes.
On travaille sur des espaces publics à Genève, on travaille aussi en Belgique, à Bruxelles. Voilà.
Donc les albums vous permettent d'aller quand même d'être reconnu un petit peu en Europe et peut-être donc de porter la voix du nouveau paysage français.
Ben, je pense que nous moi je suis issu de l'école du paysage de Versailles, et on a une lecture assez particulière dans la manière d'appréhender cette question-là. Moi, par exemple, la question de regarder un lieu, il y a deux phrases que j'aime beaucoup. C'est la phrase de Joyce dans Portrait d'un jeune homme. Il dit que un portrait, c'est pas une carte d'identité, mais la courbe d'une émotion. Et c'est ça que je cherche quand je regarde un site, quoi. C'est quelle courbe d'une émotion moi j'ai et je vais arriver à faire partager, quoi.
Et à transmettre.
Et à transmettre. L'idée, c'est comment est-ce qu'on passe d'une sensation à une idée qu'on transmet, et cette idée, comment on va la dessiner, et ensuite comment on la réalise.
Alors je suis obligée évidemment de poser ma deuxième question, parce que vous me l'amenez évidemment sur un plateau. On a l'habitude d'entretenir avec le paysage une relation assez étonnante dans les projets d'architecture, puisque c'est souvent des faire-valoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi,
justement, cette sensation, cette sensibilité, comment arrivez-vous à la faire transparaître malgré ce faire-valoir ? Hein.
Moi, je travaille sur le plaisir d'habiter. Et je pense que j'essaye, dans un projet à différentes échelles, de fabriquer ce plaisir d'habiter. Comment est-ce que les gens vont habiter un grand territoire, se sentir appartenir à la ville et à l'espace public ? Et en même temps, comment est-ce qu'ils habitent un lieu singulier qui est leur lieu ? Voilà. Comment ces lieux sont moteurs de lien social ? Comment est-ce qu'on crée des parcours depuis l'espace public jusqu'à l'espace privé ? Comment est-ce que depuis l'extérieur, le paysage est réfléchi, et depuis l'intérieur, on peut imaginer que celui qui habite le rez-de-chaussée n'a pas le même paysage, il habite un jardin, celui qui habite au troisième étage habite la frondaison des arbres, et celui qui habite au douzième étage habite le ciel.
Donc vous avez commencé à réfléchir dans vos projets aux paysages partagés, aux jardins partagés verticaux avant que ça n'existe réellement presque. Parce que dans la manière dont vous décrivez votre esprit et votre parcours de créateur, on a presque l'impression que cette verticalité du paysage, elle vous habite vraiment dans les projets.
Le paysage, c'est des multiples dimensions, quoi. Et si j'avais envie de prendre une dimension qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est plutôt la dimension du temps. C'est-à-dire que nous, on est intrinsèquement liés à la question du temps et ce qui nous amène à avoir un regard assez singulier, notamment dans la fabrication de la ville et des projets urbains, c'est sur la question de stratégie de fabrication. Nous, on travaille avec le vivant. Et le vivant nous amène, on livre pas un produit fini quand on livre un parc, et après la nature est au fond une espèce d'énergie qu'on guide. Et dans le projet urbain, on peut utiliser cette manière de faire.
C'est-à-dire que... Quel retour vous avez justement sur les projets que vous avez faits il y a 5-6 ans, quand vous passez devant, quand vous vous immergez dans ces projets 5 ans après?
Eh ben, on voit que ça a poussé, on voit surtout que la vie a pris. Un des premiers projets de l'agence, qui était un tout petit projet, dans une mairie en Champagne, on a découpé l'enrobé, on a planté des arbres et du parking, on est passé à une place. Et ça, c'est au fond des actions qui sont extrêmement intéressantes, parce que ça peut être des actions d'impulsion pour des projets urbains. C'est-à-dire qu'il y aurait deux stratégies un peu dans le projet urbain. Nous, on a des cas
c'est
où...
C'est de la préfiguration, en fait.
C'est de la préfiguration. C'est un peu plus que ça, parce qu'en fait, on a déjà l'usage qui s'installe. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est comment est-ce que les habitants retrouvent ces espaces publics qui, dans ce cas-là, étaient donnés à la voiture.
C'est vrai qu'on s'aperçoit très bien dans les consultations que les paysagistes ont de plus en plus, je dirais, un rôle important, voire mandataire. Est-ce à dire que les consciences s'éclairent?
Moi, je pense que c'est le sens, c'est les mouvements de l'histoire. Les paysagistes ont toujours été présents. Le mythe fondateur, c'est le jardin d'Éden, c'est pas la ville. Voilà. Et il y a toujours eu des expériences, en fait, de paysagistes qui sont intervenus pour fabriquer des grands plans de ville. On a Jean-Claude Nicolas Forestier qui a travaillé à Paris et dans le monde entier. On a aussi un autre exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le parc est un modèle de ville. C'est-à-dire comment est-ce que le parc de Versailles a servi avec Leblon comme base pour le plan de Saint-Pétersbourg, et comment l'enfant s'est inspiré de Versailles pour fabriquer Washington. Donc dans le premier cas, le projet n'a pas été réalisé. Dans le deuxième cas, on peut aller voir ce que c'est qu'un parc... qui a servi de prototype peut-être, ou d'inspiration.
La nature comme message international et cosmopolite.
Ouais, et une manière de s'installer dans un site et d'avoir une lecture d'un site qui fait que la manière de regarder un lieu et de le transformer vaut aussi bien pour un parc que pour une ville. Et ça m'intéresse beaucoup.
Alors, je vais passer peut-être à un autre sujet, mais on sait très bien aujourd'hui que malgré toute cette poésie, on nous oblige parfois et on doit vous interroger parfois sur le fait de mettre dans vos projets poireaux et carottes, c'est-à-dire de l'agriculture urbaine à tout bout de champ. Bon, je le dis d'une manière un petit peu radicale, mais on sait très bien aujourd'hui que c'est aussi quelque chose qui est un petit peu à la mode.
Moi, je pense que vous parlez, je crois, d'agriculture urbaine.
Oui, agriculture urbaine, j'ai dit quoi, pardon, excusez-moi.
Je pense qu'il faudrait déjà le définir, en fait, au fond. Parce que ça finit par couvrir un champ qui est tellement large. Ça, c'est le pot de thym que vous avez sur votre balcon, jusqu'à, au fond, des expériences qui peuvent être plus ambitieuses. Alors nous, dans les projets, en fait, on le manie de manière assez différente. On s'en sert dans les jardins de Cœur d'Îlot, au fond, comme moteur de lien social. Les jardins de Cœur d'Îlot, aujourd'hui, on n'a pas tellement envie qu'il y ait d'usage, on ne veut pas tellement qu'il y ait de bruit. Et comment est-ce que les gens qui ne se connaissent pas, qui arrivent dans des immeubles qui sont neufs, en fait, se retrouvent autour du jardin et autour de cette pratique? Nous, on utilise souvent le jardin de cueillette. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de pratique de jardinage, mais il y a le plaisir de partager... les fruits, souvent les petits fruits qui sont là. Et voilà comment on fait la fête de la framboise, comment on se réunit ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Et après, on a des expériences plus ambitieuses à Pont-de-Clay, par exemple, où il y a énormément d'espaces publics qui sont peu constructibles parce qu'il y a une énorme usine, donc il y a un classement Céveso. Et là, on essaye de mettre en place à l'échelle de la ville, mais c'est à cet endroit-là que ça a un sens, parce qu'on sait, ça correspond à l'histoire de la ville. Qui a été le
drac. C'est réunir un peu les contraires, quoi. C'est-à-dire un lieu particulièrement chargé, je dirais pollué, Céveso, une histoire un peu compliquée, avec la nature qui reprend ses droits et l'humain au milieu de ça.
Mais c'est aussi l'histoire de cette vallée. Donc Pont-de-Claix, c'est au sud de Grenoble. C'était une vallée glaciaire. Il y a le Drac qui prenait entièrement cette vallée. Puis on a commencé à canaliser le Drac. On a installé un cours qui est un cours de 8 km, qui s'appelle le cours Saint-André, qui est une digue. Donc tout d'un coup, on a pu exploiter la moitié de la vallée. Donc il y a eu de l'agriculture avec tout un système de canaux. Il y avait énormément d'eau, donc il y a des papeteries qui se sont installées. Et donc il y a toujours eu un équilibre entre l'industrie et l'agriculture. Et maintenant, on cherche à retrouver cet équilibre en s'appuyant sur la mémoire des lieux et les qualités des lieux.
Alors, on aurait la possibilité de discourir et de discuter encore sur pas mal de projets, mais je vais être obligée de vous réinterroger, de vous réinviter une autre fois. C'est peut-être Nicolas Hulot, votre nouveau ministre, puisque nous sommes aujourd'hui presque en train de... Au moment où nous parlons, c'est le premier conseil des ministres qui se réunit. Donc, Nicolas Hulot comme ministre...
Je sais que moi je suis enseignant à l'école du paysage de Versailles et que nous on a plusieurs ministres de tutelle, ce qui fait partie aussi au fond de la richesse de notre métier. On est à la fois sur l'aménagement du territoire, la fabrication de la ville, et on dépend aussi du ministre de l'agriculture, donc peut-être un lien avec l'agriculture urbaine, et aussi du ministère de la culture. Et donc on touche évidemment à tous ces champs-là quand on exerce le métier de paysagiste urbaniste.
Formidable, vous êtes vraiment chanceux. Merci à vous Thomas de cette matinée, de cette interview et à bientôt sur nos antennes.
Merci de m'avoir reçu.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.